Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, Louis XVI naquit le 23 août 1754 à Versailles. Il porte le titre de duc de Berry avant de devenir roi de France et de Navarre le 10 mai 1774. Il sera sacré un an après, le 11 juin 1775, à Reims. Après Louis IX, qui fut porté sur les autels, contemporain de saint Thomas d'Aquin, dont les reliques sont dans cette belle église des Jacobins de Toulouse. De saint Thibaut, abbé du Vaux-de-Cernay, à qui il doit sa descendance par l'efficacité de ses prières, missionnaire par les croisades, où, outre le souci de libérer la Terre Sainte, il avait le désir ardent de libérer les chrétiens prisonniers, des adeptes de la religion de Satan, pour reprendre une expression plus tardive de Chateaubriand. Après Louis IX, nous avons, d'une manière singulière, en la personne de Louis XVI, un monarque qui marque non seulement notre histoire, mais aussi notre religion. Louis ne fut pas éduqué pour régner, mais les circonstances guidées par la Providence en décidèrent autrement, et Louis devint roi, roi pour mourir en martyr. Mais qui est-il, ce roi méticuleux, passionné d'horlogerie, de serrurerie, de tout ce qui demande finesse et précision? C'est même lui qui conseillera M. Guillotin pour mieux ajuster la lame qui allait lui trancher la tête. Ironie du sort. Qui est-il, ce roi qui est reconnu pour sa politique maritime? Depuis sa mort, personne ne l'a encore égalé dans ce domaine. Mais qui est-il, ce pénitent bleu de Toulouse? Oui, qui est-il, ce roi, grand, blond, aux yeux bleus, à la force colossale, excellent cavalier, excellent chasseur? Ce roi est simple, fort éloigné du sentimentalisme à la mode au XVIIIe siècle et très réservé. Louis XVI aime la solitude et la chasse lui donne l'impression d'être libre car le cérémonial lui pèse un peu. Par malheur pour lui, il méprise les pamphlets et ne cherche pas à y mettre fin, une erreur qui lui coûtera cher. Mais sa bonté n'est ni faiblesse ni ignorance. Sous son règne, la France dominera l'Europe et Franklin pourra écrire « Louis XVI est le plus grand faiseur d'heureux qu'il y ait eu en ce monde ». Sous Louis XVI, la marine excelle et se relève d'une manière prodigieuse, elle qui avait été affaiblie par la guerre de 7 ans. L'historien Taimit écrira quelques années plus tard: on peut penser que Napoléon ne serait pas mort à Sainte-Hélène s'il avait disposé de la marine de Louis XVI. C'était un passionné et il faisait preuve de délicatesse avec ses proches. Dans le préambule du livre écrit par Noël d'Estremaux sur la magnifique marine de Louis XVI, on peut lire ceci. En allant à l'échafaud, une heure avant sa mort, Louis XVI interrompt ses prières pour demander « A-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» Ses dernières pensées iront vers la mer, lui que l'on surnommait à juste titre le roi marin. C'est un roi bon et généreux, toujours en quête du bonheur qu'il n'aura de cesse de vouloir donner à ses sujets. C'est un homme de son époque aussi, celui des Lumières, celui d'un bonheur légitime, mais trop humain. Les aventures de Télémaque, œuvre principale de Fénelon, ont marqué les consciences. Louis est passionné par cette œuvre qui porte, hélas, la marque du serpent. Œuvre séduisante, mais qui tente à faire disparaître le droit divin au profit du droit naturel. Que peut être, mes amis, le bonheur si on y enlève la dimension de la croix? Utopie ou illusion? Louis le comprit en montant à l'autel du sacrifice. Et là, pour la première fois chez lui, la question du bonheur pris une dimension sublime, sublime dans ses sentiments, sublime dans son attitude, sublime dans le don de sa personne. Comme l'agneau sans tache, il se livra. Ici, laissons la parole à Samson, son bourreau. Descendant de la voiture pour l'exécution, on lui dit qu'il fallait ôter son habit. Il fit quelques difficultés en disant qu'on pouvait l'exécuter comme il était. Sur la représentation que la chose était impossible, il a lui-même aidé à ôter son habit. Il fit encore la même difficulté lorsqu'il s'agit de lui lier les mains, qu'il donna ensuite lui-même lorsque la personne qui l'accompagnait lui dit que c'était un dernier sacrifice. Alors, il s'informa si les tambours battraient toujours. Il fut répondu qu'on n'en savait rien et c'était la vérité. Il monta sur l'échafaud et voulut s'avancer sur le devant comme pour parler. Mais on lui représenta que la chose était impossible. Il se laissa alors conduire à l'endroit où on l'attacha et d'où il s'est écrié très haut, « Peuple, je meurs innocent !» Se tournant vers nous, il nous dit, « Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. » Le vrai bonheur, mes amis, c'est l'espérance du ciel. Pour cela, il fallait que le Christ souffrît et mourût sur la croix pour notre rédemption. Notre droit, c'est d'avoir des chefs capables de nous conduire à notre salut. Il fallait donc un roi qui se donna en sacrifice pour que nous ne perdions jamais l'espérance. C'est tourné vers la croix que nous rencontrons le Christ qui nous dit « Je t'aime et je donne ma vie pour toi parce que je t'aime ». Même dans les épreuves les plus tourmentées, c'est en se tournant vers la croix que nous communions à la grâce qui nous permet d'être joyeux, qu'à l'amour d'une personne qui se donne fait fleurir l'espérance. Dans ce marasme dans lequel nos hommes politiques nous habituent que trop, nous avons comme une vision triste de l'homme où l'individualisme règne. Le sujet devient méprisable, le peuple souffre, l'amour est étouffé. Il reste néanmoins l'illusion de croire qu'une politique peut soudainement devenir plus belle, plus porteuse qu'une autre, et l'histoire nous montre que nous descendons de l'échelle d'illusion en illusion perdue. Alors pourquoi, année après année, nous faisons mémoire de Louis XVI et des martyrs de la Révolution? C'est pour prendre un chemin différent, parce que nous ne voulons pas continuer à descendre l'échelle, mais à la monter. C'est dans la montée, dans la verticalité, que nous pourrons faire preuve de courage et d'amour. Et l'amour a besoin de rencontrer le sacrifice. Et comme dit Sainte Thérèse de Calcutta, l'amour doit faire mal parce que l'amour, c'est la mort de l'égoïsme. C'est l'espérance, mes amis, d'avoir demain un chef qui dira comme oui en montant sur le trône. Faire connaître Dieu, et connaître Dieu, ces deux mots comprennent toute la science du gouvernement. Mais pour le dire, il faut être roi. Car comme le dit si bien Gustave Thibon, il y a dans l'institution monarchique une sorte de transparence au divin, une délégation du pouvoir de Dieu lui-même. C'est l'espérance de pouvoir donner notre vie. Comme le disait Charles Péguy dans un de ses poèmes, « La maison souveraine, ainsi qu'au temps passé de M. Charlemagne ou de M. Saint-Louis, quand le comte Roland mourait face à l'Espagne et face aux Sarrasins qu'il avait ébloui, quand le comte Roland mourait pour Charlemagne, mais aujourd'hui, pour paraphraser Gustave Thibon, qui donnera sa vie pour un Hollande, pour un Valls ? Ou pour ne pas faire de jaloux pour un Fillon. » Oui, mes amis, nous prions Louis XVI et les martyrs de la Révolution pour que la France se redresse, pour qu'elle puisse avoir un commandant pour la gouverner. Bon vent, le roi est mort, vive le roi, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.